Alors, on a débuté cette série du livre de 1 Corinthiens en septembre. Puis le thème, est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent du thème global de toute la série? Je l'ai dit au début quelques fois, puis là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas redit. Juste voir si vous vous rappelez, c'est un beau thème, un très beau thème. Hein? Une église, OK, il y en a quelques-uns, une église moderne, pas mondaine, OK? Alors, une église moderne, mais pas mondaine, ça c'est le désir que notre église a, et ça veut dire une église de son temps, une église qui est capable de rencontrer les défis de notre société moderne, avec le message profond et historique, non altéré de l'Évangile et de la parole de Dieu. Et ça, c'est un grand défi, n'est-ce pas, de rejoindre notre société avec cet Évangile de Jésus, cette bonne nouvelle qui transforme des vies et qui nous amène à être transformés dans notre façon de vivre notre vie quotidienne. Donc, une église dynamique, une église chaleureuse, et comme on a vu récemment avec 1 Corinthiens 12, une église où on est en train de vivre comme une famille, où on prend soin les uns des autres également, et même on porte une attention particulière à ceux qui ont de la difficulté, qui ont besoin d'être encouragés, soutenus, et là, on les aime d'autant plus. Et on n'est pas en train de chercher simplement à être une église qui est glorieuse, qui est performante, qui a des statistiques extraordinaires, et puis que là, on met de l'avant la personnalité charismatique des uns au détriment de ceux qui sont là, ils se regardent, puis ils disent « Ah, il me semble, moi, j'ai pas grand-chose. » C'est pas ça l'église moderne. C'est pas l'église que Jésus nous présente dans 1 Corinthiens. L'Église que Jésus nous présente dans 1 Corinthiens est justement une Église qui est remplie de son Saint-Esprit et qui vit dans ses relations quelque chose qui n'existe pas dans le monde moderne. On ne peut pas trouver ça en dehors que l'Église, si ce n'est dans les familles qui font partie de l'Église, c'est-à-dire dans ce petite famille qui est nos familles, lorsqu'on se rencontre à chaque semaine dans nos foyers, et là, on peut vivre cette vérité de l'Évangile qui transforme nos vies et qui nous amène à être les uns vers les autres, quelque chose que, humainement, on ne peut pas y arriver. Et donc, on est en train de vraiment interagir d'une façon qui est surnaturelle, qu'on pourrait dire. Puis là, on arrive dans 1 Corinthiens 13, la voie par excellence. Là, Paul y met la barre haute, puis pas à peu près. Et vous savez, ce texte-là, c'est sur l'amour. On le sait, 1 Corinthiens 13, c'est reconnu quasiment mondialement, même souvent par des gens qui ne sont pas nécessairement des chrétiens évangéliques, mais ils ont entendu parler d'1 Corinthiens 13 à différents moments, souvent dans les cérémonies de mariage, et on l'a entendu justement mariage de Joseph et de Sheila. Et puis, c'est un texte qui revient souvent. Mais vous savez, 1 Corinthiens 13, surprenant, n'a pas été écrit pour les mariages. C'est surprenant. Parce que quand tu regardes 1 Corinthiens 13, on est quasiment sûr que c'est comme une lettre d'amour romantique, une déclaration romantique d'amour envers deux êtres qui sont en extase l'un devant l'autre, hein? Ah oui, je suis rempli d'amour pour toi, ma belle, mon beau, hein? N'est-ce pas vrai? Voilà. 1 Corinthiens 13, hein? Oui. Les nouveaux mariés, hein? Ils disent ça, les nouveaux mariés, là. Fantastique. Pour les autres, les plus vieux mariés, oui. Oui, il y en a, hein? C'est bon. J'aime ça. Alors, je ne vous apprends rien en disant que, dans le fond, 1 Corinthiens 13 n'a pas été écrit pour les couples. Donc, le contexte immédiat d'1 Corinthiens 13, ce n'est pas la relation entre un homme et une femme dans le contexte du mariage. Naturellement, ça ne se limite pas au contexte que Paul donne. Parce que le contexte d'1 Corinthiens 13, c'est toute cette section sur les dons spirituels. C'est ça qui est un peu particulier. Pourquoi dans le contexte de l'exercice des dons spirituels dans l'Église, Paul arrive avec ce chapitre-là, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, un peu comme s'il y a une petite pause ici, quoique il fait référence aux dons un peu plus tard dans le chapitre 13, mais c'est vraiment pas le sujet principal, disons. Il ne parle pas des dons comme tels, mais il parle de l'amour, l'exercice de l'amour. Et si on voit le contexte global d'1 Corinthiens, avec les difficultés relationnelles qui se passaient dans l'Église de Corinthe, et 1 Corinthiens 12 qui fait référence justement à ce que certains étaient remplis d'orgueil, et donc se disaient pratiquement supérieurs aux autres, c'est-à-dire parce que j'ai certains dons spirituels, ben je suis moi spirituel et je suis vraiment une grande bénédiction à l'Église et je suis quelqu'un qui est important. Et là, les autres qui regardaient ce discours-là, ils regardaient ces gens-là qui semblaient véhiculer assez ouvertement leur avantage spirituel qu'ils avaient sur les autres. Alors, les autres qui regardaient ça, et on peut dire ici la majorité qui regardait ça, se disaient « Wow, moi, je suis insignifiant. » Parce que si je regarde, j'ai rien comparé à ça. J'ai des peanuts à comparer à ceux qui ont ces dons extraordinaires, spectaculaires. Et donc, Paul dit ça, c'est mal. Et là, c'est pour ça que j'avais fait référence à ceci. Je crois vraiment que c'est ce qu'on voit ici dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Que ce qu'il y a de plus important que les dons spirituels, à exercer les dons spirituels, c'est le fruit de l'Esprit. Et c'est pour ça que Paul ici vient ouvrir cette fenêtre sur, justement, l'amour, l'importance de l'amour dans l'Église. Parce que l'amour, qui est ce fruit de l'Esprit, c'est l'ingrédient divin qui va faire toute la différence dans nos vies personnelles, comme dans nos couples, comme dans nos familles, comme dans l'Église. Et pour Paul, il le sait très bien. Et là, ici, il va décrire ce qu'est l'amour. Et en voyant ce qu'est l'amour, on devrait avoir une seule réaction. Et savez-vous, c'est quoi la réaction qu'on devrait tous avoir? Lorsqu'on va les voir tantôt, là, les caractéristiques ou les qualités de l'amour, là, on devrait tous arriver à la même réaction, à la même conclusion. Hein? Vouloir aimer, OK, ça serait un bon désir. Ça serait une belle décision aussi. Mais la réaction à laquelle on devrait tous arriver, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas. OK? Et là, c'est comme si Paul dit, on est tous au même pied d'égalité. On est tous à la même place. Parce que prétendre qu'on peut avoir ces qualités-là de l'amour, eh bien, encore là, ça serait très orgueilleux. Parce qu'on est tous, au niveau de l'amour, en manque. Et je sais aussi que la tendance humaine est la suivante, face à l'amour. Et vous allez sûrement être d'accord avec moi. On a plus de volontaires qui vont se placer dans la rangée de ceux qui veulent être aimés que dans la rangée de ceux qui veulent aimer. Et on est toujours meilleur à discerner comment les autres ne nous aiment pas que bon à discerner comment moi je n'aime pas les autres comme Dieu voudrait que je les aime. OK? Alors, il y a cette particularité-là de l'amour, où on a des attentes à être aimé, des très grandes attentes à être aimé. Mais en ce qui concerne nous d'aimer, là, c'est une autre histoire. Là, on a plutôt des grandes excuses. OK? Pourquoi on n'arrive pas à aimer? Mais savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que si on vient à Jésus, il n'a plus de problème. Parce que, un, il va nous montrer si on a des trop grandes attentes à être aimé. Et là, il va nous inviter à venir à lui. Puis à dire, moi, je peux t'aimer. Tu ne trouveras pas un homme, une femme sur cette terre qui peut t'aimer comme moi, je peux t'aimer. Et là, ton regard n'est peut-être pas placé à la bonne endroit. Et Jésus va nous le montrer, ça. Et là, il va donc modifier ce qui a été modifié dans notre perception, dans notre vision, dans notre champ d'orientation. Et là, il va interagir avec notre cœur. Ou bien non, il va dire, je sais que tu n'es pas capable d'aimer. Je suis content même que tu reconnaisses que tu n'es pas capable d'aimer. Du moins pas comme l'amour tel que moi je le conçois, tel qu'il est révélé dans 1 Corinthiens 13. Je comprends ça. Je comprends que tu te sens vraiment démuni, à court de force, à dépasser. Parce que dans la relation dans laquelle tu es, par exemple, ou dans l'église dans laquelle tu es, par exemple, bien, je comprends que c'est difficile pour toi d'aimer. Mais viens à moi. Si tu viens à moi, les choses ne seront pas pareilles. Parce que Jésus, il a, lui, l'affaire. Comprenez? Il veut juste interagir avec nous pour que justement l'amour puisse tout à coup s'exprimer dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de l'esprit. Voilà. L'amour ne sera présent que si l'esprit est en train de prendre le plein contrôle de ma vie et de s'exprimer à travers moi. Et pour ça, il faut aller à Jésus. C'est dommage que lorsqu'on prend la liste des qualités de l'amour, et puis là, on commence à s'évaluer puis à dire, « Ah, ouais, moi, je manque un petit peu de patience. » Un petit peu de patience. Par contre, oui, ça, j'ai... ouais, ça, cette qualité-là de pardonner, oui, ça... ouais, moi, je pardonne assez facilement. Ça, je l'ai, ça, le pardon. Ça, par contre, de penser pas juste à mes intérêts, ouais, ça, encore un petit peu de travail à faire avec ça. Savez-vous le problème avec ça, c'est quoi? C'est que c'est nous qui s'évaluons par rapport à des qualités. Et là, on n'est pas en train d'entendre la voix du Seigneur qui, lui, s'il nous évaluait comme faux, dirait « tu ne l'as pas pantoute ». Mais là, tu dis, c'est décourageant, ça, cette affaire-là. Mais non, c'est pas décourageant. Moi, je trouve que c'est la chose la plus encourageante. Tu sais, moi, je dis à ma femme, « Chérie, je suis pas capable de t'aimer. » C'est le fun, ça? Hein? Hey, les gars, dites à votre épouse, « Chérie, je suis pas capable de t'aimer. » Non? T'as peur de le dire? Mais chérie... La chose que je voudrais aussi que tu saches, c'est que je me tourne vers Jésus. Parce que lui, il sait comment aimer. Puis lui, il va m'aider. C'est ça la bonne nouvelle. Si je reconnais mon incapacité, je ne suis pas en train de dire « je ne t'aimerai pas ». Je suis en train de dire « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est trop difficile ». Je n'ai pas ça en moi, cet amour-là. Je parle ici dans ma chair, dans ma nature humaine. Par contre, j'ai accès à celui qui est amour. et à celui qui n'a aucune limite. Et je peux vous dire une chose, ça marche. Puis pas à peu près. Et là, tout à coup, je peux aimer comme Christ aime. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit. Ça, c'est l'amour surnaturel. Ça, c'est le miracle que Dieu seul peut accomplir dans nos vies. Alors, je vais lire le texte des 1 Corinthiens 13 par tranche. La première chose que je vais lire, c'est les versets 1 à 3 et le verset 13. Où ce qu'on voit ici, c'est la supériorité de l'amour que j'appelle surnaturel de l'Esprit. Alors, Paul dit ceci, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, rien. » C'est des bonnes choses qu'il est en train de dire. Là. En tout cas, la foi pour transporter des montagnes, moi j'aimerais ça avoir cette grande foi-là, n'est-ce pas? Fantastique, ça. Mais pourtant, il dit, si je n'ai pas l'amour, rien. Et regardez au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, il me semble que c'est de l'amour, ça, faire ça. Mais non. Des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, tu sais, le sacrifice de soi, et je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Donc, c'est possible de faire plein de choses qui semble à première vue avoir une saveur spirituelle ou une saveur même de renoncement, une saveur d'amour, puis pourtant, Paul semble dire que non, c'est pas automatique. Et là, verset 13, il termine en disant, « Mais donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Plus grand que la foi, plus grand que l'espérance, plus grand que... » Et il va continuer plus tard. Alors donc, l'amour surnaturel de l'Esprit est supérieur à quoi? Un, le don des langues humaines, dit Paul. Deux, le don des langues angéliques. Trois, le don de prophétie. Quatre, la science de tous les mystères. Cinq, la connaissance de tout. Six, la foi qui déplace des montagnes, c'est-à-dire ici une confiance inébranlable dans la bonté et la puissance de Dieu pour intervenir souverainement dans les affaires de ce monde et les changer selon sa volonté parfaite. Hébreux 11, 1 nous dit ceci sur la foi. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder, ce qu'on espère, déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Imaginez-vous, c'est quand même spécial. Pourtant, l'amour est plus grand que ça. 7. Le vœu de pauvreté ou le dénuement de tous ses biens matériels en faveur des pauvres. 8. Le don de sa vie ou le courage de livrer son corps au feu à titre de sacrifice vivant. Et 9. Si on le voit dans le verset 13, l'élément de l'espérance, qui est une attente et une anticipation de voir ce que l'on ne voit pas encore, mais qui existe, comme dans Romains 8, 24. L'amour est plus grand que toutes ces choses. Maintenant, il y a les qualités de l'amour qui sont données aussi au verset 4 à 7. Et là, il y en a 15. Paul va dire, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, l'amour, il est patient. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il est sans désir de vengeance. Deuxièmement, il est bienveillant, c'est-à-dire qu'il est sans dureté, mais il est plutôt serviable. Troisièmement, l'amour est heureux du bonheur des autres. Alors, il n'en vit pas ce que les autres ont. L'auto, les vacances, et ainsi de suite. Réservé, alors l'amour est sans vantardise, se vante pas. Humble, sans orgueil. Sixièmement, respectueux, alors il n'est pas grossier ou impoli. Septièmement, l'amour est altruiste, il n'y a aucun motif égoïste dans ce qu'il est en train de faire. Il ne le fait pas pour un bénéfice quelconque, un avantage quelconque, la peur de quelque chose. Non, c'est vraiment détaché de tout intérêt personnel. Il est tolérant, alors sans hostilité, mais il est plutôt conciliant, gracieux, alors garde pas de rancune. Il est bon, aucune malice, authentique, sans hypocrisie, sans arrière-pensée, sans cacheterie, protecteur, sans condamnation, crédule, se méfie de rien, optimiste, il n'est pas découragé facilement ou il n'y a rien qui le décourage, et il est résilient, sans abandonner. Il n'abandonne jamais. Vous savez que si j'ai lu ça, puis j'ai dit, « Ah, regarde, on pourrait peut-être changer ça. Au lieu de marquer l'amour, on pourrait mettre quoi à la place? » Voilà, Jésus est patient, serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil, il n'est pas malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne, il croit, il espère, il supporte. Dans le fond, il est en train de décrire exactement qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a juste Jésus qui peut avoir ces qualités-là. Constamment, 100%, tout le temps. Et c'est pour ça que sans lui, c'est impossible. Et c'est pour ça que je voulais souligner aussi ici le contraste justement qu'il y a entre l'amour naturel puis l'amour surnaturel qui est donné ici dans 1 Corinthiens 13. Et là, j'ai été surpris un petit peu parce que là, je ne m'attendais pas à ça. Regardez bien. L'amour naturel est capable, par exemple, de bonté. Mais il est toujours teinté d'égoïsme, cette bonté-là. C'est un peu ce qu'il est en train de dire en disant, on peut donner nos biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne donne rien. Donc, c'est possible d'être touché par la pauvreté des gens et de vouloir aider la pauvreté, mais avec un motif égoïste. À moins que, justement, Dieu intervienne et là m'amène à faire ça d'une façon totalement désintéressée. Mais dans un autre contexte aussi, dans le mariage, c'est possible d'aimer, mais de le faire avec un certain intérêt personnel. C'est un peu ce qu'il dit dans Éphésiens 5, 28-29, quand il dit que l'homme qui aime sa femme... Hein? Il s'aime lui-même, il aime son propre corps. C'est comme s'il a intérêt à aimer sa femme, comme il a intérêt à s'aimer lui-même. Puis là, il y a comme cette teinture quand même un peu égoïste. Et c'est pour ça que quand Jésus dit d'aimer nos ennemis, là, il ne parle plus de l'amour naturel. Là, il parle d'un amour vraiment surnaturel. Pourquoi? Parce que aimer ceux qu'on aime, ça c'est une autre réalité de l'amour naturel, c'est juste naturel d'aimer ceux qu'on aime. D'aimer ceux qui nous font du bien, c'est juste naturel. D'aimer ceux qui sont gentils avec nous, c'est juste naturel. De rendre service à un voisin parce qu'il m'a rendu service, c'est juste naturel. Puis même des fois, on se sent comme cheap si on ne fait pas l'inverse. Hein? Donc, n'importe qui peut faire ça, autrement dit. C'est ça que ça veut dire naturel. C'est que n'importe qui peut faire ça, puis habituellement, c'est ça. N'importe qui le fait, ces choses-là. Aimer quelqu'un parce qu'il représente une certaine valeur à nos yeux. OK? Il y a une certaine importance pour nous, soit parce que c'est un membre de la famille, soit parce que c'est quelqu'un d'influent, soit c'est parce que quelqu'un qui pourrait m'ouvrir des portes. Comprenez? C'est naturel. Mais quand Jésus parle dans Matthieu 5, 43 à 48, là, il parle d'un amour impossible. Naturellement parlant. Parce que aimer son ennemi, là, aimer celui qui te fait du mal, aimer celui qui veut ta mort, Aimer celui qui t'haït comme la peste. Aimer celui qui, pour toi, représente absolument rien. Que ça t'apporte aucun avantage de. Là, il faut que Dieu intervienne dans nos vies pour être capable d'aimer de cette façon-là. Et c'est le contexte de 1 Corinthiens 13. Même Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28-29, en disant « Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. » Ça, c'est l'amour surnaturel. Un amour qui est démesuré, puis un amour qui ne se donne pas en fonction de combien valable on représente à nos yeux. Alors, Dieu nous a aimés de cette façon, même si, d'un point de vue clair et net, là, pour Dieu, on ne représentait pas une plus-value. Êtes-vous d'accord? Hein? La plupart d'entre nous, un peu comme Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, on n'avait pas nécessairement, on n'était pas pour ajouter quelque chose là, au royaume de Dieu. Hein? On était beaucoup plus bénis qu'on a pu bénir, par exemple, le royaume de Dieu. Dieu a été, il s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. On ne l'a pas tellement enrichi, nous autres. Non. Même si on a beaucoup de sous, là, Dieu n'est pas tellement impressionné par notre beaucoup de sous. Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? Ouais. Dieu, il veut se glorifier à travers toi, à travers moi, à travers chacun de nous. Plus on est poqué, amoché et qu'on n'a rien d'impressionnant, ben plus Dieu dit... Wow! Ça, c'est le fun. Parce que regarde ce que je suis capable de faire dans la vie d'une telle personne. Regarde comment est-ce qu'il avait détruit sa vie, comment qu'il était en train de se comporter de toutes sortes de manières qui est répréhensible. Puis regarde la transformation de vie que ça a apporté. Et là, la seule réponse qu'on peut donner à ça, c'est quoi? Ben, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est un peu ce que Jésus disait lorsqu'il disait à ses disciples, « Regardez, si vous demandez de faire 1 000, faites-en 2. » Parce que le 1 000 en question, dans la loi romaine, c'était juste normal de faire 1 000. Tu étais obligé de faire ça. Si tu ne faisais pas ça, tu étais dans le trouble. Fait que ce n'est pas impressionnant, ça, de faire 1 000. Quand quelqu'un te dit, « Garde, là, viens avec moi, transporte mes affaires, puis tu le fais 1 000, that's it, c'est le contrat. » Puis, c'est ton devoir. Mais là, tu lui dis, hey, « regarde, tu veux-tu, je vais faire un 2e 1000? » Là, il va te regarder, il dit, « Quoi? Tu n'es pas obligé de faire un 2e 1000. » « Non, non, j'aimerais ça faire un 2e 1000 pour toi. » »« Pour moi, tu ne me connais même pas. » Puis en plus, c'est moi qui t'ai forcé le bras, là, tu es obligé de faire ça. « Non, non, mais c'est parce que le 2e 1000, sais-tu pour qui je le fais? » « Je le fais pour Jésus. » Là, ça attire l'attention. Mais c'est ça, l'amour. L'amour pour Dieu... nous amène à aimer aussi ceux qui sont autour de nous. Et ça, c'est un amour surnaturel. Maintenant, les raisons pourquoi l'amour est supérieur. Alors, dans les versets 8 à 12, Paul nous dit ceci. « L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. » Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Alors ici, il veut dire quoi? La façon de parler comme un enfant, la façon de penser comme un enfant, puis la façon de raisonner comme un enfant, qui est pas mature. Vous comprenez? On s'entend là-dessus. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Alors quand? Alors, quand ce qui est parfait qui sera venu. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, quand ce qui est parfait sera venu, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors, les trois raisons pourquoi l'amour est supérieur à toute autre chose, et là, au don spirituel en particulier, là, il y en nomme trois. okay? Celui de la prophétie, celui des langues et celui de la connaissance. Alors, premièrement, l'amour, Paul dit, il est parfait, contrairement aux dons qui sont imparfaits. Parce que les dons ne peuvent pas me communiquer d'une façon parfaite Dieu. Vous comprenez? C'est ça un peu l'argument de Paul. Étant donné qu'on est sur la terre, on est humain et on est assujetti encore à une réalité humaine, eh bien, à cause de ça, les dons ne me permettent pas de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Alors, l'amour, par contre, lui, est parfait. Une autre chose, il dit, l'amour est permanent. Alors, ça veut dire éternel, divin, sans fin. Alors, les autres choses, dont les dons, par lesquels nous entrons actuellement en communion avec Dieu, sont temporaires, mais elles seront abolies un jour par ce qui est permanent. Et on va voir tantôt c'est quoi ça, ce qui est permanent. Qu'est-ce qui s'en vient? L'amour est complet, c'est-à-dire que l'amour est sans limite, l'amour est riche, l'amour est inépuisable. Les choses par lesquelles nous entrons actuellement en communion avec Dieu sont partielles, mais elles prendront fin un jour avec ce qui est complet. C'est ça l'argument de Paul. Pour ça qu'il dit que l'amour est supérieur au don spirituel. Et l'amour est un don de Dieu. Alors, on a vu ça tantôt. C'est impossible d'aimer autrement que de recevoir ce don de Dieu qui est l'amour. Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire au verset 10 lorsqu'il dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Et là, ici, il y a une multitude de réponses à cette déclaration de Paul. Elle emmène beaucoup de débats, cette déclaration. C'est quoi ça, ce qui est parfait quand ça va être venu? Et là, je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà une idée de qu'est-ce que ça pourrait être, ça, ce qui est parfait. Alors, je vais vous en donner quelques-uns, OK? Il y en a trois qui sont comme similaires, mais il y a des nuances un petit peu, mais ça tourne autour de la même chose. Donc, la première qui est apportée comme interprétation, alors, ce qui est parfait, c'est la rédaction du Nouveau Testament. Alors, aussitôt que le Nouveau Testament va être complété, donc, dans notre cas, on le sait que c'est complété, ça vient compléter toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les 66 livres. On a le canon des Écritures, la révélation de Dieu. Donc, cette révélation de Dieu-là, elle est complète. Il n'y en a pas d'autres à venir. D'autres livres ne s'ajouteront pas avec les années d'ère chrétienne. Peu importe, 100 ans, 1000 ans, on a 66 livres et ces 66 livres-là sont complets. Donc, c'est la révélation complète de Dieu. Ce qui est parfait, c'est ça. C'est la révélation complète de Dieu qui est venue avec le dernier livre du Nouveau Testament qui a été écrit. Et donc, on a toute la révélation de Dieu. Alors, ça, c'est une possibilité. Le deuxième, c'est le retour de Christ et l'Église qui va être glorifiée. C'est ça qui est parfait. C'est ça qui est à venir. Et c'est ça qu'on doit attendre. Et quand ça va être arrivé, bien là, les autres choses vont être abolies ou vont cesser. Troisièmement, c'est la connaissance parfaite qu'on va avoir seulement une fois rendu au ciel. Et là, les autres nuances qui viennent avec ça, donc d'autres disent, c'est à la résurrection des morts où nous aurons la connaissance parfaite de Dieu, de Christ et des ministères du royaume des cieux. Donc là, il y a cette nuance-là, mais ça revient à dire, une fois qu'on est ressuscité, bien là, on est avec Dieu, on est au ciel avec lui, donc ça revient un peu à la même chose. Un autre, eux autres, ils vont le mettre comme ça, c'est le ciel, c'est-à-dire cet état éternel dans lequel on va être un jour, où on va avoir un amour parfait envers Dieu et les uns envers les autres. Donc là, il n'y a plus rien d'imparfait, rien de temporaire, rien qui manque, tout est là, le paquet est là au complet. Alors, qu'est-ce qui est parfait? Ce n'est pas la rédaction du Nouveau Testament. Dans le contexte, ça serait difficile à soutenir une telle interprétation, ni le retour de Christ et l'Église glorifiée, mais c'est vraiment cette idée qu'une fois qu'on va être avec Dieu, dans sa présence, là, on n'aura plus besoin de rien On n'aurait plus besoin de la prophétie. On n'aurait plus besoin du don de la connaissance. On n'aurait plus besoin d'aucun don, en fait. Donc, ça va être terminé, ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on va le voir face à face. On va le rencontrer face à face. On va être avec lui et il n'y aura plus de partiel. Il n'y aura plus de à moitié. Ça va être la plénitude. Tout va être parfait. Maintenant, ce qui est partiel et qui sera aboli, voici encore là différentes possibilités. Il y a les dons spirituels spéciaux. Donc, ce qui est visé ici, c'est les dons spirituels spéciaux comme prophétie, connaissance, sagesse, discernement, langue, interprétation, miracle, guérison, apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur. Autrement dit, toutes ces choses-là vont être abolies. Si c'est dans la perspective du ciel, aucun problème avec ça. D'autres disent non, c'est vraiment juste le don de prophétie, le don des langues et celui d'interprétation, parce que si tu n'as pas de langue, tu n'as plus besoin de celui d'interprétation, et le don de connaissance. Donc, ils limitent ça à ces dons-là. Mais encore là, si ce qui est parfait, c'est quand on va être au ciel, pas de problème avec ça non plus. Donc, un autre dit non, c'est le don seulement de prophétie et le don de connaissance seulement. Ah oui, pourquoi? Parce que le don des langues, Paul dit, elles vont cesser. Tandis que prophétie et connaissance, elles vont être abolies, ces dons-là. Ils vont être abolis. OK, alors là, il y aurait une nuance. Et là, le fait que le don des langues vont cesser, ça va être quand? Ah, et là, la réponse, c'est aussitôt que le but pour lequel ils ont été donnés va être accompli. Et le but pour lequel ils étaient donnés aurait été accompli avec l'ère apostolique. Puisque, justement, dans Hébreux 2, 3 et 4, ça dit que les apôtres devaient avoir leur ministère, écrire le Nouveau Testament, établir le fondement de l'Église et tout ça, et que là, Dieu était pour confirmer leur autorité et leur ministère et leur message par toutes sortes de choses comme ça, dont celui des langues, et donc c'est terminé. Tandis que les dons de prophétie et de connaissance, eux autres vont être abolis seulement, comme ça dit, au moment de l'état éternel dans lequel on va arriver au ciel, Apocalypse 22, 4. Alors, voyez ici, il y a une gymnastique un petit peu qui est faite par rapport à ça. D'autres vont dire, tout ce qui est périssable et imparfait sur la terre au niveau de notre connaissance partielle de Dieu et des moyens limités de communication et de réception de la révélation de Dieu. Et pour moi, je pense que c'est probablement la meilleure interprétation parce que, effectivement, une fois que ce qui est parfait sera venu, qui, je crois, est cet état éternel dans lequel on va être avec Dieu, on n'a plus besoin d'aucun moyen pour connaître Dieu. Tous ces moyens-là, ces dons-là de communication de la volonté de Dieu ou de la personne de Dieu, bien, on n'en a plus besoin. On est avec Dieu. On est avec lui. C'est pour ça quand il dit on est face à face avec lui, et ainsi de suite, dans le reste du texte. Voici un petit commentaire de Matthew Henry que j'ai trouvé pertinent et je vais vous le lire brièvement, c'est pas long. Alors, il dit ceci, « L'amour est de beaucoup préférable aux dons sur lesquels les Corinthiens fondaient leur fierté, par sa dureté qui est plus grande, par sa durée, excusez, pas dureté, mais durée qui est plus grande, ce qui est pas mal mieux. C'est une grâce qui dure comme l'éternité. L'état présent est un état d'enfance, le futur est un état d'adulte. C'est la différence qui existe entre la terre et le ciel. Quelle vue étroite, quelle notion confuse des choses ont des enfants quand on les compare avec celles des hommes qui sont devenus grands. C'est ce que nous penserons de nos dons auxquels nous donnons le plus de valeur présentement. C'est ça qu'on va penser une fois qu'on va arriver au ciel. Toutes choses sont maintenant sombres et confuses en comparaison avec ce qu'elles seront plus tard lorsqu'on va être au ciel. Elles peuvent seulement être vues comme par le reflet dans un miroir ou dans la description d'une énigme. Mais si après, notre connaissance sera libre de toute obscurité et d'erreur. Le si après, c'est quand on va être au ciel. C'est la lumière du ciel seulement qui enlèvera tous les nuages et toutes les ténèbres qui nous cachent le visage de Dieu pendant qu'on est sur la terre. Pour résumer, les excellences de l'amour, elle est non seulement préférable aux dons, mais aussi aux autres grâces comme la foi et l'espérance. La foi oriente sur la révélation divine et y acquiesce en s'appuyant sur le Rédempteur divin. L'espérance s'attache au bonheur futur et y met ses attentes. Mais dans le ciel, la foi sera avalée par une vision réelle. Autrement dit, maintenant qu'on va voir Dieu, qu'on va être avec Dieu, alors là même notre foi va, dans un sens, perdre un peu sa réalité, là. Et l'espérance va aussi être avalée par le plaisir d'être avec Dieu. Il n'y a pas lieu de croire et d'espérer quand nous voyons ce que nous possédons. Voyez? Mais là, au ciel, l'amour sera rendu parfait. Là, au ciel, nous aurons un amour parfait envers Dieu. Et là, au ciel, nous nous aimerons parfaitement les uns les autres. État béni qui surpasse le meilleur ici-bas. Dieu est amour, 1 Jean 4:8 et 1 Jean 4:16. Là où Dieu doit être vu comme il est et face à face, l'amour se manifeste dans ses plus grandes dimensions. Là seulement, elle est parachevée. Vous savez, c'est quoi le plus grand problème avec l'amour? Il y en a 3 problèmes avec l'amour. Le premier plus grand problème avec l'amour, c'est quoi? L'amour surnaturel, là. L'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Hein? Le plus grand problème avec l'amour, le premier plus grand problème avec l'amour, savez-vous c'est quoi? C'est l'amour lui-même. C'est l'amour lui-même. Cet amour-là est trop grand pour nous. Donc, on a absolument besoin de l'aide de Dieu. Sans son intervention, c'est impossible d'aimer de cet amour-là. Le deuxième plus grand problème, c'est quoi? Le premier, c'est l'amour lui-même, inaccessible à notre nature humaine. Donc, ça prend une intervention divine pour faire que ça puisse prendre une réalité dans notre vie. Sans cette intervention divine, c'est un peu comme le salut. Le salut, on ne peut pas avoir accès au salut s'il n'y a pas une intervention divine dans nos vies. On ne sera jamais sauvable ou sauvé seulement si Christ vient à notre secours. L'amour, c'est la même chose. On ne peut pas aimer de cette nature-là si Christ ne vient pas à notre secours. C'est quoi le deuxième plus grand problème? C'est nous-mêmes. On peut le lier à notre nature humaine, mais c'est nous-mêmes. Et aussi par nous-mêmes, c'est cette réalité que si je ne goûte pas à cet amour, c'est impossible pour moi d'aimer. Il faut premièrement que j'y goûte, que cet amour-là fasse une expérience dans mon cœur. Et donc, pour ça, il faut encore là que je rencontre l'auteur de l'amour. Il faut que je rencontre Jésus. Pour goûter à cet amour-là, c'est seulement si je rencontre Jésus, sinon c'est impossible. Et savez-vous, c'est quoi le troisième plus grand problème avec cet amour? Bon, saisi, là. C'est que aimer de cette façon-là, comme Paul parle, ça veut dire qu'il faut que j'abandonne tout entre ses mains. Et abandonner tout entre ses mains, ça veut dire accepter de souffrir comme lui a souffert. Parce que ultimement, aimer veut dire, si je vous donnerais un synonyme d'aimer sur cette terre, je parle de l'état actuel dans lequel nous sommes, pour nous, aimer veut dire s'abandonner. Et s'abandonner veut dire souffrir. Et un synonyme du mot aimer, dans notre quotidien, nous, ça veut dire accepter de souffrir. Et ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Mais encore là, qui peut nous libérer de cette peur? Qui peut nous permettre de s'abandonner? Encore là, il faut venir à Jésus. Vous savez, Jésus, c'est notre seul espoir. Jésus est vraiment la personne qui peut nous faire découvrir cet amour, nous faire goûter à cet amour et nous emmener à vivre au quotidien cet amour en acceptant de s'abandonner, de souffrir pour lui. Et si on vit un tel amour, eh bien, c'est Christ qui va être glorifié. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu nous invites ce matin à ne pas autant porter notre attention aux dons spirituels comme étant une grande préoccupation dans nos vies, comme étant ce qui serait important pour l'avenir de l'Église, pour que l'Église puisse fonctionner, que l'Église puisse être ce qu'elle doit être. Seigneur, ce matin, tu nous invites à venir à toi, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi cet amour que nos cœurs ont tant besoin. Chacun de nous, ce matin, Seigneur, reconnaissons que nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous rencontres, que tu viennes à notre secours. Seigneur, aimer, ce n'est pas en moi. Aimer d'une manière naturelle, peut-être, mais aimer d'un amour surnaturel, d'un amour qui est comme tu nous décris dans ta parole et que toi, Jésus, tu as tellement été l'exemple parfait de ce genre d'amour, de cet amour ultime, surnaturel. Seigneur, est-ce que tu viendrais ce matin à notre secours? Est-ce que tu vois les obstacles qui existent dans le cœur de tes enfants pour recevoir ton amour? Seigneur, est-ce que tu interagirais avec chacun de nous ce matin pour nous conduire à tes pieds? On a célébré la table du Seigneur ce matin. On s'est rappelé à quel point tu nous as aimés en donnant ta vie pour chacun de nous. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous aimer. Et merci, Seigneur Jésus, de rendre possible un tel amour. Nous nous tournons vers toi ce matin. Nous te demandons simplement, Seigneur, interagis avec chacun de nous. Interagis avec mon cœur. Viens vers moi, Seigneur. Aide-moi à te remettre mes peurs. Aide-moi à te remettre, Seigneur, les péchés peut-être qui sont venus dans ma vie et qui font tellement obstacle à ma relation avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour, je te le demande ce matin. Permets à ton esprit d'envahir ma vie, mon cœur, mes pensées, tout mon être. Et que ce soit toi, Seigneur, qui s'exprime à travers moi. Merci, Jésus, de ta parole. Merci, Seigneur, d'être là pour moi. En ton nom. Amen.